Et maintenant, bah, place à une chroniqueuse qu'on entend trop peu dans l'émission, c'est Juliette Tarnot. Vous pensez... Oui, là, hop, vous enlevez le cerveau de la présentatrice et hop, vous mettez le cerveau de la chroniqueuse littéraire pour nous parler d'un roi sans divertissement. Alors, comme Thomas Croisière n'était pas là la semaine dernière, je fais un petit résumé. Dans un village de montagne, un tueur en série sévissait. Langlois, un capitaine de gendarmerie, est dépêché dans ce village pour partir à sa recherche. Il le trouve et au lieu de l'arrêter... Il le tue, il se fait donc justice lui-même.
Et le justicier revient vivre dans le village quelques mois plus tard, le village qu'il avait délivré du meurtrier. Il n'est plus gendarme, hein, suite à son assassinat, il a démissionné. Il revient donc en civil, sûr et avec un cheval. Langlois donc vit là, dans le village. Tout le monde est bien content, ouais ! Mais si tout le monde espère que c'est lui qui va tenir la buvette du village en racontant des bonnes grosses blagues à sa gloire et en se tapant sur les cuisses, eh ben tout le monde va être frustré, parce que Langlois est là, mais il n'est pas là. Dans le ton des meilleurs westerns, Langlois est du genre mutique. Alors les habitants font avec. Et puis le cheval de Langlois, eh ben il est charmant à sa place. Les habitants du village viennent le voir dans son écurie et je cite, on demandait « Oh, est-ce que tu es là ?» et le cheval répondait de son petit cri de colombe et il venait. C'est joli, hein? Et si vous êtes en train de vous dire que Giono, il abuse, que les chevaux, ça n'a pas de petits cris de colombe, bon, bah, déjà, vous n'avez objectivement pas passé assez de temps à discuter avec des chevaux, mais c'est pas grave, parce que Giono, oui, il les a regardés et écoutés pendant des décennies, les chevaux, mais pas seulement, ces montagnes du côté du Vercors, les montagnes, les collines, les bêtes, les arbres. Comme le être qui ouvre pratiquement le roman. Ça, c'est assez intriguant. Un être immense, puissant, magnifique, et je cite Giono, avec un feuillage d'un dru, d'une épaisseur, d'une densité de pierre, et il était surtout à cette époque pétri d'oiseaux et de mouches. Il n'était pas vraiment un arbre. Les forêts, assises sur les gradins des montagnes, finissaient par le regarder en silence. Le être crépitait comme un brasier, il dansait comme seuls savent danser les êtres surnaturels, en multipliant son corps autour de son immobilité. Là, vous êtes d'accord, c'est plus joli, là c'est le fantastique qui pointe son nez de licorne. Sauf que, et là, c'est là que je vous file comme ça, gratos, un indice de taille, parce que tant de Juju, elle aime à filer à la coup de main. Sauf donc que ce être isolé des forêts, mais qui semble regarder en silence, ce être qui domine seul, mais... à côté de la scierie du village.
Ouais, sent pas bon.
Quoi, Eh ben les enfants, réveillez-vous, c'est une année de présidentielle, même Thomas Croisière l'avait compris. Va falloir faire travailler sa petite tête. Ouais. Le être, pétri de vie, la sienne énorme, puissante, la vie des bêtes multiples qu'il habite, à côté du lieu où on débite le bois. Son propre corps, donc, enfin le corps de ses semblables, c'est un peu glaçant, non? Mais Giono, parce qu'il est futé, parce que c'est un grand écrivain, il pose ça là discrètement au début du livre et n'explicite rien. Mais nous, lectrices, lecteurs, on garde ça dans un coin de notre petite tronche. Quand Langlois revient au village avec un cheval au cri de colombe et qu'il ne parle qu'avec une personne et qui est Saucisse. Et Saucisse, c'est pas le cheval. Le cheval n'a pas de nom. Le cheval a un cri de colombe. Saucisse, c'est la femme qui loge Langlois. C'est une ancienne travailleuse du sexe qui a donc réconforté du soldat qui a vu de la guerre toute sa vie, tenancière là actuellement, enfin dans le livre, du bistrot du bled. Les gens la voient, et je les cite, énorme, avachie et même avec un peu de barbe. Langlois, lui, il la voit toute faite de goguenardise, de solidité, d'épaisseur, de vieillesse et éperdue tendresse des yeux. Alors Langlois, c'est avec Saucisse qu'il parle. Et elle, parce qu'elle est plus fine, elle voit ce qu'il est, c'est-à-dire un roi qui s'ennuie et qui cherche son plaisir le plus vif. Rappelez-vous du titre, un roi sans divertissement. Un roi qui se désennuie un moment en menant une battue terrible, épique, pour faire sortir un loup, un vrai loup. On est en 1840 et quelques. Un loup qui décime le bétail et terrorise les paysans. Le roi Langlois doit se divertir, c'est-à-dire se détourner de l'image de la mort, en multipliant les activités et en évitant la solitude qui l'y ramènerait inexorablement. Va-t-il réussir ? Saucisse trouvera-t-elle la solution qui fait fuir l'image de la mort? Mais ça, c'est à vous de lire, mes petits amis.
Oh, mais ça commence à bien faire. Ça n'a pas changé, ça.
Ça n'a pas changé.
Vous ne donnez jamais la fin.
Jamais. Merci, bisous, merci.
On aurait envie d'en faire un film de cette histoire, je trouve.
Ça a été
qu'on
fait.
Appellerait
ouais.
J'aime
c'est
la saucisse.
Fait. C'est qui l'a fait c'est
le scénario est de Jean Giono et je ne me souviens plus qui a réalisé.
Ah, bah écoutez, on va faire des recherches pendant le disque, mais ça semblait cinématographique. Merci, Juliette Tarnot.
France Inter.